le magazine des Nations Unies.
Dialogue en RDC, la MONUSCO va continuer sa mission des bons offices pour plus d'inclusivité et de crédibilité de ce forum. Seule voix royale pour baliser le processus électoral. Le porte-parole de la mission onusienne l'a souligné mercredi dernier. C'était au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies et c'est la grande nouvelle de ce magazine. Les tendances des violations des droits de l'homme sont inquiétantes et en constante hausse en République démocratique du Congo. Et cela à l'approche du dialogue et des échéances électorales dans ce pays. C'est en tout cas ce qui ressort du rapport mensuel de juillet 2016 du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Le BCNUDH dénonce assassinats et exécutions sommaires et extrajudiciaires tout en proposant des pistes pour renverser la tendance. Le directeur de ce bureau est l'invité du magazine des Nations Unies. Enfin, la MONUSCO s'apprête à fermer ses portes à la base temporaire de Cachébéré au Nord-Kivu, une situation qui est loin d'arranger les populations civiles de cette contrée qui est située à plus ou moins 110 km de Goma. Les détails également dans cette édition.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue à ce magazine des Nations Unies. Le lancement des travaux du comité préparatoire par Edem Kodjo n'est que le début d'un processus. Les bons offices de la MONUSCO vont continuer avec toutes les parties prenantes pour que le dialogue soit le plus inclusif et le plus crédible possible. Précision du porte-parole de la MONUSCO, mercredi au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa. Les propos de Félix Prosper Bass, sélectionné par Honoré Missinga Kalala.
Nous sommes convaincus que la seule voie, c'est la voie du dialogue en vue d'aller vers des élections apaisées, crédibles et transparentes. Et mener ce dialogue sans exclusive, c'est la préoccupation majeure. Nous travaillons parce que en fait, ces efforts faits par le facilitateur ne s'arrêtent pas avec le lancement des travaux du comité préparatoire, mais aussi c'est une action qui se poursuit et les bons offices se poursuivent et tout le monde s'attelle à faire venir tout le monde autour de la table pour dialoguer des questions essentielles, des questions existentielle du peuple congolais et nous pensons qu'il sera inclusif afin d'avoir toute sa crédibilité et nous pensons aussi qu'une seule chose qui sera d'une extrême importance, c'est l'intérêt du peuple congolais et la paix dans ce pays-là.
Autre point d'actualité en rapport avec la situation humanitaire, selon les dernières statistiques publiées par l'ESR au 31 juillet 2016, la République démocratique du Congo comptait 387 963 réfugiés et un peu plus d'1 700 000 déplacés internes. Les précisions avec Honoré Missinga.
Le Rwanda vient en première position en nombre de réfugiés sur le territoire congolais. 245 052. Suivent notamment la RCA, 95 191 réfugiés. Le Burundi, 30 618. Le Soudan du Sud, 15 764. La République du Congo, 686. L'Angola, 553. Pour l'Angola, une parenthèse, il s'agit d'une exemption parce que, officiellement, la cessation du statut de réfugié était entrée en vigueur depuis le 30 juin 2013 pour les réfugiés angolais. Autre précision, selon le ICER, le nombre de 245 052 réfugiés rwandais est présenté par le gouvernement de la RDC comme le résultat d'un pré-enregistrement initial effectué par la Commission nationale pour les réfugiés de décembre 2014 à janvier 2015. Cependant, à ce jour, seuls 40 000 Rwandais ont été identifiés par l'opération d'enregistrement biométrique encore en cours, précise le ICER. Par ailleurs, en plus des réfugiés, le pays fait également face à ses propres déplacés internes. Le OSR les dénombre à 1 722 084 personnes. Un nombre auquel il faut ajouter 3 419 réfugiés de la RDC rapatriés au pays cette année. La gestion et la mise en œuvre de l'assistance humanitaire de toutes ces personnes, réfugiés, déplacés internes et rapatriés, relève bien entendu de la mission du ACR, en partenariat avec le gouvernement congolais à travers la Commission nationale pour les réfugiés et d'autres partenaires du système des Nations Unies, tels la MONUSCO, le PAM, OCHA, le PNUD, UNFPA, l'OMS, la FAO, UN Habitat, ONUFAM et l'OIM.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le PAM et la FAO ont rendu publics les résultats du 14e cycle du cadre intégré de classification, ce qu'on appelle IPC. La cérémonie avait lieu à Kinshasa. Il y avait un peu plus de 2 semaines en présence du ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Alors nous revenons encore sur l'entretien que messieurs Sib Olo, en charge d'études de vulnérabilité au programme alimentaire mondial PAM, avait eu avec Honoré Missenga Kalala.
Sib Olo, bonjour.
Bonjour monsieur.
Le PAM et la FAO viennent de rendre les résultats du 14e cycle du cadre intégré de classification IPC en sigle. D'abord, c'est quoi le cadre intégré de classification?
Alors, le cadre intégré de classification de l'insécurité alimentaire aiguë, qu'on appelle IPC, comme on le dit, c'est un cadre dans lequel plusieurs acteurs se retrouvent sous le leadership de la FAO et du PAM et du gouvernement pour répondre à un certain nombre de questions clés sur la situation alimentaire des gens. La première question, quelle est l'intensité ou la sévérité de l'insécurité alimentaire dans le pays? Deuxième question, il y a combien de personnes qui sont touchées par cette insécurité alimentaire? Où est-ce que ces personnes vivent? Et quelles sont les causes fondamentales qui font que ces personnes sont en insécurité alimentaire? Donc l'IPC se résume à cette analyse pour répondre à ces questions.
Les résultats de ce 14e cycle sont analysés sous 5 phases. Alors comment se présentent chacune de ces phases, en commençant par la phase minimale?
Alors, la phase minimale, ça veut dire en gros que tout va bien chez ces ménages-là. Donc c'est pour ça que souvent la phase minimale est représentée par une couleur verte, pour dire que la situation est plutôt acceptable pour ces ménages qui vivent dans cette zone. En la phase 2, on appelle ça la phase de sous-pression. Ça veut dire que c'est des ménages qui sont soumis à des chocs. Mais d'un autre point de vue, ces chocs sont tels que ces ménages-là peuvent, avec très peu d'assistance extérieure, faire face. Cependant, quand on passe à la phase 3, qui est la phase de crise, ça veut dire que c'est des ménages dont les principaux moyens d'existence ont été affectés par le choc. Et que donc c'est ces ménages-là, tout seuls, ne peuvent pas faire face à leurs besoins sans l'appui extérieur, sans une assistance humanitaire extérieure. Et ceux qui sont en phase 4, c'est vraiment la phase d'urgence, donc ça veut dire là on est sur vraiment des questions de vie ou de mort. Et quand on la passe à la phase 5, ça veut dire c'est la famine, donc c'est la mort. Voilà.
Alors, quelles régions correspondent à la première phase, à la phase minimale?
Bon, quand vous regardez la carte des territoires, vous voyez que presque, je dirais, les territoires qui sont une partie de la frontière avec l'Angola, on a aussi des territoires qu'on peut trouver dans le Bas-Congo, enfin, qui sont des territoires en phase minimale. On a aussi des territoires autour du Mandundu qui sont dans la phase minimale. Donc, il y a des zones dans ce pays où la situation alimentaire des ménages est relativement acceptable.
Par ensemble, quelles sont les grandes conclusions et les grands enjeux de cette analyse?
L'analyse, nous, on faut se focaliser sur les 5,9 environ millions, donc environ 6 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. L'analyse nous montre que par rapport à juin 2012, il y a une légère baisse du nombre de personnes en insécurité alimentaire, à peu près 9-10%, mais on est quand même sur un chiffre important de 6 millions. Et pour ces 6 millions de personnes, on recommande que les acteurs humanitaires, avec sous le leadership du gouvernement, leur apportent l'assistance humanitaire nécessaire pour faire face à leurs besoins.
Alors, quelles sont les recommandations particulières au gouvernement par rapport à cette situation?
On l'a déjà évoqué lors des différents discours qui ont eu lieu. La première recommandation, c'est que dans l'immédiat, on a 6 millions de personnes qui ont besoin d'avoir accès à l'alimentation, avoir accès aux moyens d'existence, aux outils, à des semences, qui ont besoin d'accès aux services sociaux de base. Donc la première recommandation, c'est que les actions soient entreprises pour faciliter l'accès à ces services sociaux de base, à l'alimentation et aux moyens d'existence de ces personnes. La deuxième recommandation qu'on a formulée au cours des différentes présentations, c'est que le pays puisse se doter d'un système national d'information sur la sécurité alimentaire et l'alerte précoce qui va permettre d'anticiper les crises alimentaires dans le pays.
Donc, juste des recommandations.
La grande recommandation, c'est celle-là. Mais en plus de ça, comme on l'a dit, il faut soutenir les statistiques en matière agricole et en matière de sécurité alimentaire, parce que sans statistiques, on ne peut pas faire ce type d'analyse. Et l'autre recommandation qui est importante, c'est le fonctionnement de ce qu'on appelait le cluster sécurité alimentaire sur lequel cette activité est faite, c'est de renforcer son fonctionnement.
Ce 14e cycle ouvre quelle période dans le temps?
C'est 6 mois, donc ça veut dire qu'on l'a sorti en juin, donc il faut compter janvier 2017. Donc l'analyse actuelle va couvrir la période juin 2016, janvier 2017.
Merci.
Merci.
ouvrons cette page de nouvelles en bref par un fizi dans le sud Kivu avec la construction d'un bâtiment devant abriter le palais de justice de Baraka. Le chef du sous-bureau de la MONUSCO Uvira, Ould Mohamed El Hassen, a procédé mardi dernier à la remise officielle du bâtiment. Il s'agit d'un édifice de 20 mètres sur 10, comprenant 11 pièces dont une salle d'audience, 3 cachots, 7 bureaux entièrement équipés en outils informatiques. Ce nouvel appui de la MONUSCO rentre donc dans le cadre d'un des piliers de son mandat, à savoir la restauration de l'autorité de l'État, d'un coût global de 103 800 $ américains. Dans plus de 97 000 financés par la MONUSCO, ce don est un projet à impact rapide qui vise non seulement à renforcer la lutte contre l'impunité, mais également à contribuer à la promotion des droits humains. Enfin, vous les sentez? La campagne de vaccination contre la fièvre jaune qui s'est déroulée du 16 au 21 août en RDC a donc bénéficié d'une supervision de proximité mise en œuvre par l'OMS afin de s'assurer de la bonne marche de cette campagne. Les superviseurs venaient des aires de santé, des zones de santé et du niveau provincial et étaient accompagnés à tous les stades de la campagne par des équipes d'appui de l'OMS et d'autres partenaires. Pour rappel, la campagne de vaccination contre la fièvre jaune a ciblé plus de 10 millions de personnes de 47 zones de santé de Kinshasa, du Kasaï central, du Lualaba, du Kwango et du Congo central.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
80 civils assassinés par les groupes armés dans les territoires affectés par le conflit, 24 victimes d'exécutions sommaires et extrajudiciaires en juillet 2016. Les tendances de violation des droits de l'homme sont inquiétantes en République démocratique du Congo, à l'approche du dialogue et des échéances électorales, selon le rapport mensuel du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, publié mercredi dernier à Kinshasa. Je vous propose à ce sujet l'entretien que José Maria Aranaz, directeur du Bureau conjoint, a eu avec Jean-Pierre Elali Ikoko. Suivez plutôt.
José Maria Aranaz, bonjour.
Bonjour, monsieur Elali, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Nous allons nous entretenir aujourd'hui autour du rapport du mois de juillet en matière de droits de l'homme. Nous allons dire un mot sur justement la présence du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo, 20 ans après. Si vous le permettez, on va commencer par le rapport. Quelles sont les principales tendances qu'on peut avoir dans ce rapport?
Notre bureau a enregistré 383 violations des droits de l'homme dans le mois de juillet, qui représente une baisse relative par rapport des mois de juin. Les principales auteurs des violations des droits de l'homme sont les agents étatiques. 60% de ces chiffres de violations des droits de l'homme, les groupes armés ont commis 55 violations, assassiné 80 civils dans les territoires affectés par les conflits. En matière des violations des droits de l'homme et libertés fondamentales, notre bureau a enregistré 72 violations. En matière de la lutte contre l'impunité, au moins 10 membres de l'FRDC et 4 membres de la police ont été condamnés pour violation des droits de l'homme. C'est un effort qu'on voudrait saluer.
À quoi est-ce qu'on doit attribuer cette baisse-là? Parce que c'est quand même une évolution.
Oui, la baisse, c'est une baisse relative. En tout cas, ce qu'il faut souligner, c'est que la chiffre, c'était encore très, très élevé. Et ça veut dire qu'il y a plus de 10 violations des droits de l'homme chaque jour. Et ça, c'est très, très élevé et très préoccupant. En tout cas, les chiffres globales continuent à marquer la tendance à l'augmentation générale des violations des droits de l'homme depuis l'année passée. Et ça, c'est une tendance inquiétante, en tout cas.
Voilà, c'est inquiétant parce que 80 massacres, on note 24 victimes d'exécutions sommaires et extrajudiciaires en un seul mois. Ça, c'est beaucoup, c'est inquiétant. Ces chiffres donnent l'impression, monsieur le directeur, d'une certaine faiblesse de notre système judiciaire, malgré les efforts qui sont faits dans ces domaines.
Oui, il y a beaucoup de choses à faire, mais la chiffre d'exécutions sommaires et extrajudiciaires par les agents de l'État indique qu'il y a encore beaucoup de travail à faire en matière de la justice militaire et de la justice policière, et aussi d'améliorer les structures de discipline interne pour renforcer l'usage des armements à disposition des policiers et des militaires. Alors, beaucoup de travail à faire pour éradiquer les exécutions sommaires extrajudiciaires par les agents de l'État.
Mais comment on peut renverser la tendance au niveau, par exemple, du bureau conjoint? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour essayer d'améliorer les choses?
On donne l'appui au système de justice militaire. Aussi, il faut changer la législation pour introduire la responsabilité des commandants responsables de ce qui se passe dans les comportements des soldats ou des policiers. Et aussi, il faut avoir un meilleur contrôle des armements qui sont disponibles pour les policiers et les militaires.
Voilà, donc c'est l'usage qu'on fait des armes qu'il faut vraiment délimiter, c'est ça?
Oui, et aussi, je pense que c'est le moment d'introduire une politique de tolérance zéro pour éradiquer les violations des droits de l'homme et pour mettre en justice ceux qui sont responsables. Tout. Comme vous avez vu, il y a des efforts qu'il faut saluer. J'ai parlé des 10 militaires et des 4 membres de la police qui ont été condamnés. Mais quand on fait les comparaisons entre les chiffres de violations des droits de l'homme commis par les agents étatiques et les chiffres de ceux qui sont condamnés, il y a une disproportionnalité très grande. Je pense qu'il faut commencer à penser une politique de tolérance zéro et des condamnations totales de tous les agents étatiques responsables dans les violations des droits de l'homme.
Votre rapport relève également les restrictions de l'espace démocratique, et ces restrictions-là persistent, hein, malheureusement. C'est un sujet vraiment d'inquiétude à la veille du dialogue et même des élections proprement dites. On a aussi l'impression là aussi que votre plaidoyer en faveur du respect des droits de l'homme n'est pas entendu par les auteurs de violations des droits de l'homme. Que peut faire encore le bureau à l'approche de ces échéances électorales?
La question des restrictions de l'espace politique était une des questions centrales de la visite de l'haut commissaire des droits de l'homme le mois passé à la RTC. Et dans le dialogue avec les autorités, il y avait beaucoup de sujets qui ont été évoqués, par exemple la question des arrestations arbitraires, par exemple la question des droits à manifestation pacifique, l'arrestation de ceux qui sont responsables des violations des droits de l'homme et de libertés fondamentales, aussi la question de la libération des prisonniers politiques.
Un effort a été fait dans ces domaines. On a suivi, il y avait une liste de 24 prisonniers qui ont été libérés.
Oui, tout à fait. Les autorités, ils ont montré une attitude très réceptive à toutes les propositions de leurs commissaires pour ouvrir l'espace politique et pour améliorer les situations. Mais même, par exemple, le 31 juillet du mois passé, dans la gestion d'une manifestation convoquée par l'opposition, il n'y avait pas pour la première fois des armes létales dans le cadre de la manifestation. Et il faut saluer ces efforts. Alors, il faut les saluer, mais il faut les consolider, les approfondir, les continuer. Il faut aussi mettre en place toutes les autres mesures qui ont été discutées avec le commissaire. Ça s'agit de l'éradication totale des armements létaux dans la gestion des manifestations, arrêter l'arrestation arbitraire des membres de l'opposition et de la société civile, la libération effective et réelle de tous les prisonniers politiques et membres de la société civile et activistes des droits de l'homme qui sont été emprisonnés de manière aussi à arrêter l'instrumentalisation de la justice. Et je pense que tout ça va contribuer à créer un climat apaisé pour le dialogue et va contribuer aussi à la crédibilité du dialogue politique et des élections. Il faut rappeler à tous ceux qui sont responsables des violations des droits de l'homme et aussi de la violence qu'ils seront responsables de mettre à justice.
Ok, on va aborder un dernier point, c'est sur la présence du Haut Commissariat des Nations Unies. Votre présence ici en République démocratique du Congo, cela fait 20 ans exactement que le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme existe en République démocratique du Congo. Maintenant, on parle du bureau conjoint. Un mot ou même un petit bilan?
Les images passées marque les 20 ans de la présence du Haut Commissaire des Droits de l'Homme à la RDC, ce sont 20 ans au service de la population congolaise, 20 ans d'appui aux autorités, aux institutions et à la constitution congolaise pour consacrer les droits qui sont dans la constitution et dans les instruments internationaux des droits de l'homme que la République démocratique du Congo a signé. Je peux citer par exemple quelques travail du bureau en matière des droits de l'homme, par exemple les rapports de mapping qui a fait la lumière sur plus de 600 violations graves des droits de l'homme commises dans les territoires de l'RDC et contre la population de l'RDC par les armées du pays étranger. Je peux mentionner aussi l'appui au pouvoir judiciaire et aux autorités pour faire l'enquête et amener les responsables en justice. Les plaidoyers et l'appui que le bureau a donné pour la législation première après la formation de la Commission nationale des droits de l'homme. Les défis, ils ont changé, la situation a évolué, mais il y a encore beaucoup de choses à faire et des défis à notre face.
Oui, il y a beaucoup de choses à faire et des défis aussi à relever. Est-ce que, à la veille du dialogue qui est annoncé et aussi les élections qui, j'espère, seront organisées, est-ce que vous avez un message, peut-être un dernier mot pour la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo en ces temps quand même difficiles, il faut le dire?
Sans droits de l'homme pour tout, il n'y aura pas de sélection et de dialogue crédible. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble avec les autorités et tous les auteurs et tous les acteurs politique du processus électoral et du dialogue électoral pour avoir l'application effective des droits de l'homme. Sans droits de l'homme, il n'y aura pas de dialogue crédible et de sélection crédible et apaisée.
Voilà, José Maria Aranaz, merci.
Merci à vous, merci à Radio Capi et à tous les auditeurs.
Kachébéré, base temporaire d'où la MONUSCO s'apprête donc à fermer ses portes. Une situation qui est loin d'arranger les habitants de cette localité qui est située à 110 km à l'ouest de Goma, dans le groupement de Lubériki, territoire de Walikale. Un reportage de Sekombi Katondolo, rendu par Denise Loukesso.
C'est après plusieurs missions d'évaluation faites par les différentes sections de la MONUSCO que finalement la décision de fermer la base temporaire de la MONUSCO à Kachébéré est tombée. Mais cette décision n'est pas la bienvenue pour les populations de cette entité, pour qui Kachébéré est toujours sous la menace des groupes armés qui pullulent dans la région. C'est ce que dit le Mwami Bamongo Kabuto Alexandre, chef du groupement Lubériki.
C'est une mauvaise nouvelle pour moi et pour toute la population du groupement Lubériki. Lorsque toute la population entière va apprendre que la MONUSCO partait, je ne sais pas ce qui viendra même ce soir. C'est vraiment utopique. Là, nous disons que notre gouvernement et la MONUSCO veulent créer ici ce qu'on a connu à Beni.
La base temporaire de la MONUSCO à Kachébéré a été établie en 2008. C'est à cause de sa position stratégique à cheval entre les Walikale et Masisi, où plusieurs groupes armés, notamment APCLS, NDC, FDC et Raia Mutomboki, arrivent à se mouvoir facilement. Pour le moment, la MONUSCO est dans la phase transitoire de cette fermeture, où elle s'apprête à remettre aux autorités locales les mécanismes de protection. En attendant, Kachébéré restera sous la couverture militaire de la base MONUSCO de Niabiondo. Goma, Denise Louquet sur Radio Capi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Qu'est-ce qui explique la résurgence des épidémies en RDC? Je vous invite à suivre cette question posée mercredi dernier à la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies, mais aussi la réponse de Florence Marshall et les coordonnatrices du groupe de communication des Nations Unies.
Guillaume Lomé, RTNC2 Développement, Madame Marshall, qu'est-ce qui expliquerait la recrudescence de toutes ces épidémies en RDC? Hier, Ebola, aujourd'hui, fièvre jaune, en même temps, choléra. Qu'est-ce qui se passe, Madame?
Le docteur Diallo, dans son intervention à l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire, a un petit petit peu parlé de ça. La recrudescence des épidémies est aussi liée au fait que les structures de développement ne sont pas toutes fonctionnelles, ne sont pas toutes en place et fonctionnelles dans les différentes zones de santé. À Calémi, par exemple, on sait que s'il y a des problèmes avec l'eau, l'hygiène et l'assainissement, c'est parce qu'il y a des problèmes pour justement faire tourner les turbines pour l'alimentation en eau potable. Donc les raisons sont liées bien souvent à la qualité des infrastructures de base qui sont dans le pays. Et puis après, comme vous le savez, l'épidémie de choléra actuellement, elle galope le long du fleuve Congo parce que ça remonte. Et puis, comme vous le savez, il y a des réfugiés de Centrafrique qui sont en RDC. Il y a des mouvements pendulaires, des mouvements journaliers entre les deux pays à travers la rivière Oubangui. Et tout ça favorise évidemment l'extension des épidémies.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Je suis Madame Muleka Mulumba Mireille, célibataire. Et je suis licenciée en droit de l'Université protestante au Congo, de la promotion 2003. Actuellement, je travaille au sein du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, en tant qu'associée aux droits de l'homme, depuis 2009. Mon travail au sein du Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme, je suis en fait membre de l'unité réforme et renforcement institutionnel du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Ce que je fais particulièrement au sein de mon unité, je suis chargée d'abord du partenariat avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine des droits de l'homme, mais aussi du suivi des lois en rapport avec les droits de l'homme au Parlement, au Sénat, à l'Assemblée nationale. Et aussi, je suis en charge de la formation des agents de la PNC et des FRDC en droits de l'homme. On a eu à faire beaucoup de formations avec les FRDC récemment d'ailleurs au centre d'instruction de Kitona, de Moura, de Kamina, toujours dans le cadre de la sensibilisation en droits de l'homme des agents de l'État. S'il y a autre chose à dire, après l'université protestante au Congo, où j'ai eu mon diplôme de licence en droit, j'ai travaillé de 2004 à 2009 au sein d'un cabinet d'avocats, le cabinet du bâtonnier Mukendi wa Mulumba, où j'ai œuvré en tant qu'avocate. Et c'est du cabinet du bâtonnier Mukendi wa Mulumba que je suis venue directement en 2009 au sein du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, où je continue à travailler dans le domaine de droit, mais plus spécifiquement dans les droits de l'homme. Pour parler de mon temps libre, je profite en tout cas de mon temps libre pour passer un peu de temps avec la famille, parce que bon, avec le travail, on n'a pas toujours le temps de passer du temps en famille. Et aussi, je passe mon temps à faire un peu de lecture, comme j'aime beaucoup lire. En ce qui concerne mes préférences musicales, j'aime beaucoup la musique française, j'aime la rumba congolaise, je suis congolaise, donc je reconnais avant tout les mérites de la musique congolaise. Et les loisirs, comme sport, j'aime beaucoup faire du vélo, je fais du vélo tous les week-ends. Bon, mes préférences culinaires, j'aime manger la cuisine congolaise, le foufou, le pondou, makayabou, donc tout ce qui est cuisine congolaise. Bon, en ce qui concerne les projets d'avenir, le fait que j'ai travaillé déjà depuis plus de 7 ans dans le domaine des droits de l'homme m'a donné un peu envie de travailler pour la cause des personnes qui ont besoin d'être défendues, les personnes les plus défavorisées, les personnes qui ont besoin d'une assistance, ceux qui sont laissés pour compte. Et donc je me vois bien dans un avenir proche travailler pour cette cause-là. Pourquoi pas, par exemple, en tant que représentant du peuple au Parlement, pour défendre la cause des personnes qui ne peuvent pas parler et parler pour eux. Ou bien tout simplement peut-être conseillère dans un cabinet d'un ministre ou d'un gouverneur pour apporter là où je peux ne fût-ce qu'un petit changement, parce que nous avons tous une pierre à apporter au changement dans notre pays.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Voilà, des petits rendez-vous à noter dans vos calepins. Le 29 août, c'est en tout cas la journée internationale contre les essais nucléaires. Et le 30 août, c'est la journée internationale des victimes de disparitions forcées. C'est par ici que nous mettons un terme à ce magazine des Nations Unies. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous sur les antennes de Radio Kati, à Kinshasa, vous nous captez sur la 103.5 FM. Vous pouvez également retrouver ce magazine sur notre site internet. Vous connaissez l'adresse www.radiokati.net. Merci à toute l'équipe. Jean-Pierre Elali Coco au reportage, à la coordination. Honoré Missenga au reportage. Tina Salama au micro. Et André Mongou à la mise en onde. À très bientôt. Et très bon suite des programmes sur Radio Kati. Ciao, ciao.